Comme il est formidable d'être ici avec vous aujourd'hui, pour quelques minutes certes, mais quelques minutes intenses, et quelques minutes en quelque sorte de pause dans notre vie quotidienne, où nous avons cette possibilité de nous retrouver tous ensemble, vous tous, hein, les fidèles de la Daily Audio Bible, et puis vous aussi qui nous rejoignez aujourd'hui, où nous pouvons laisser la parole de Dieu nous envahir, littéralement. Et moi je trouve ça miraculeux, chaque jour, de pouvoir entendre la parole de Dieu et de la laisser nous transformer, nous changer. Alors nous avons donc terminé le livre d'Esdras hier. Il s'est terminé par une longue liste de personnes qui étaient en exil et qui enfin ont pu retourner à Dieu pour reconstruire Jérusalem et le temple. C'était une manière un peu étrange de mettre fin à ce livre, certes, mais cependant, nous allons commencer aujourd'hui le livre de Néhémie qui reprend cette belle histoire du peuple d'Israël. Donc, le livre de Néhémie est un des livres connus comme faisant partie des livres historiques de la Bible. Selon la tradition chrétienne, Esdras en est l'auteur, car le livre d'Esdras et celui de Néhémie ne formaient au départ qu'un seul et même livre. Néhémie est un juif exilé en Perse qui entend parler de la reconstruction du temple. Il est un serviteur proche du roi. Il est très préoccupé par la situation de Jérusalem et il envisage de rebâtir le mur de la ville. Il voit que le temple est au cœur de la culture juive, mais il voit aussi qu'il n'y a rien pour le protéger. Alors de tout son cœur, il veut rebâtir le mur, ce qui présente de nombreuses métaphores avec notre vie. Néhémie affronte toutes sortes d'oppositions, mais il persévère à travers elles, restant concentré, engagé et tenace, sans oublier sa totale dépendance envers le Seigneur. Ce sont les choses nécessaires pour mener une vie de foi réussie, n'est-ce pas? Alors, le mur est rebâti en un temps record. Néhémie retourne en Perse et va revenir quelques années plus tard à Jérusalem, où il retrouvera un mur solide, mais malheureusement un peuple très affaibli. Il se met à la tâche en vue de restaurer la gloire d'Israël devant le Seigneur, en amenant la repentance et le réveil chez le peuple par la lecture de la loi. Le livre de Néhémie ne représente pas seulement une grande partie de l'histoire du peuple d'Israël, il représente également une riche métaphore de la vie, notre vie à tous. Nous pouvons certainement nous retrouver dans chacune de ces pages. Alors Sabelle est notre lectrice aujourd'hui, c'est elle qui va avoir l'immense privilège de nous lire tout cela dans la Bible en français courant. Sabelle, nous t'écoutons.
Néhémie, chapitre 1 au chapitre 3, verset 14. Récit de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au cours du roi de Kisle, alors que moi, Néhémie, je résidais dans la ville forte de Suse, un de mes frères, Hanani, arriva de la province de Juda, accompagné de quelques hommes. Je leur posais des questions au sujet des Juifs revenus d'exil et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent : les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restai dans l'affliction, en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu du ciel et lui dis : ah Seigneur Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Tourne ton regard vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi ton serviteur. Jour et nuit, je te prie pour nous, les Israélites tes serviteurs. Je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Oui, moi-même et mes ancêtres, nous avons péché. Nous t'avons offensé en désobéissant aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous avais communiquées par ton serviteur Moïse. Souviens-toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part. Si vous ne me restez pas fidèles, je vous disperserai parmi les nations étrangères. Mais si par la suite vous revenez à moi et prenez bien soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adressent aussi tes autres fidèles qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permets que le roi y réponde avec bienveillance. J'étais à cette époque échanson du roi. La 20e année du règne du roi Artaxerxès, un jour du mois de Nisan, pendant que le roi était à table, je pris du vin et lui en versai. J'étais triste, ce qui ne m'était jamais arrivé en sa présence. Alors le roi m'interrogea. « Pourquoi cet air triste? Tu n'es pourtant pas malade. Quel est le chagrin qui te ronge ?» Je fus saisi d'une grande frayeur. Je parvins toutefois à dire au roi. « Que sa majesté le roi vive à jamais. Comment pourrais-je ne pas être triste alors que la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et que ses portes ont été incendiées ?»« Que désires-tu obtenir de moi ?» me demanda le roi. Aussitôt, j'adressai une prière au Dieu du ciel, puis je répondis au roi. Si le roi accepte de me témoigner de la bienveillance, qu'il m'autorise à me rendre dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, afin que je puisse la reconstruire. Le roi, à côté duquel la reine était assise, me demanda encore. « Combien de temps durera ton voyage? Quand seras-tu de retour ?» Le roi acceptait donc de me laisser partir, et je lui indiquai la date de mon retour. J'ajoutais, que le roi veuille bien me faire remettre des lettres destinées au gouverneur de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'il me laisse passer en Juda. Qu'on me remette aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois nécessaire pour les portes de la forteresse proche du temple, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'habiterai. Le roi me procura ces lettres, car mon Dieu m'accordait sa protection. Je me rendis alors chez les gouverneurs de la région, à l'ouest de l'Euphrate, pour leur remettre les lettres du roi. J'étais escorté par des officiers et des cavaliers que le roi avait mis à mon service. Lorsque Sanébalat, le Horonite, et Tobia, son adjoint ammonite, apprirent que j'arrivais, ils furent très mécontents que quelqu'un vienne s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, je restai d'abord 3 jours tranquille, sans révéler à personne ce que mon Dieu m'avait inspiré d'accomplir pour la ville. Ensuite, de nuit, je me mis en route, accompagné d'un petit groupe d'hommes. Je n'emmenais pas d'autre animal que l'âne qui me servait de monture. En pleine nuit, je sortis de la ville par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et la porte du fumier. J'examinai les murailles de Jérusalem et je constatai qu'elles avaient des brèches et que les portes avaient été dévorées par le feu. Je continuai en direction de la porte de la source et de l'étang du roi, mais ma monture n'eut bientôt plus la place de passer. Alors, toujours de nuit, je remontai le ravin du Cédron en poursuivant l'examen des murailles, puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les magistrats de la ville ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que j'avais fait, car avant ces moments-là, je n'avais rien révélé aux Juifs, pas même aux prêtres, aux notables, aux magistrats, ou à d'autres personnes responsables des travaux. Je leur parlai ainsi. « Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin de mettre un terme à cette situation humiliante. » Je leur racontai comment mon Dieu m'avait accordé sa protection, et ce que le roi m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt. « Au travail, nous allons reconstruire la ville. » Et ils se préparèrent, courageusement à réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sanébalat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, apprirent cette nouvelle, ils commencèrent à se moquer de nous. Ils nous demandaient avec mépris, « Qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi ?» Je leur fis donner cette réponse. « C'est le Dieu du ciel, lui-même, qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et reconstruire la ville. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem, ni d'y exercer une autorité, que jamais non plus on ne s'y souvienne de vous. » Le grand prêtre Eliashib se mit au travail avec ses collègues les prêtres. ils rebâtirent ensemble la porte de brebis. Après l'avoir consacrée, ils mirent en place les battants de la porte. Ils réparèrent la muraille jusqu'à la tour des 100. Et après l'avoir consacrée, ils continuèrent jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux, travaillaient les habitants de Jéricho, puis Zaccour, fils d'Imri. La porte des poissons fut rebâtie par les habitants de Séna. Après en avoir posé la charpente, ils mirent en place les battants de la porte avec ses barres et ses verrous. À côté d'eux travaillaient Méremoth, fils d'Uria et petit-fils de Hakos, puis Meshulam, fils de Berekia et petit-fils de Meshézabel, puis Sadoc, fils de Bana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, dont les notables refusèrent cependant de travailler sous les ordres des responsables de l'ouvrage. La porte de Yeshana fut reconstruite par Yoyada, fils de Paséa, et par Meshulam, fils de Bessodia. Après en avoir posé la charpente, ils mirent en place les battants de la porte avec ses barres et ses verrous. À côté d'eux travaillaient Melatia de Gabaon, Yadan de Méronoth, ainsi que d'autres hommes de Gabaon et de Mispa, pour le compte du gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Plus loin, il y avait l'orfèvre Uziel, fils de Haraya, puis le parfumeur Anania. Ils achevèrent leur travail à Jérusalem lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux travaillaient Réphaïa, fils de Our et chef de la moitié du district de Jérusalem. Un peu plus loin, Yedaya, fils de Yarumaf, s'occupait d'un secteur situé en face de sa maison. Venait ensuite Hatush, fils de Hashabnea, Malkia, fils de Harim, et Hashub, fils de Pahat Moab, travaillaient à un autre secteur comprenant la tour des fourneaux. À côté d'eux, Shalum, fils de Haloesh et chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, travaillait avec l'aide de ses filles. La porte de la vallée fut reconstruite par Hanoun et les habitants de la ville de Zanoa. Après l'avoir rebâtie, ils mirent en place ses battants, ses barres et ses verrous. Ils réparèrent aussi 500 mètres de muraille jusqu'à la porte du fumier. La porte du fumier fut reconstruite par Malkia, fils de Rekab et chef du district de Beth-Kerem. Après l'avoir rebâtie, ils mirent en place ses battants, ses barres et ses verrous. Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 24. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme, et la femme, de même, doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale. Sinon, vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé, l'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Voilà ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seul comme moi, mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre, qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur. La femme ne doit pas se séparer de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Et un mari ne doit pas renvoyer sa femme. Aux autres, voici ce que je dis, moi-même et non le Seigneur. Si un mari chrétien a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord de continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le renvoyer. En effet, le mari non-croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non-croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs, alors qu'en réalité, ils sont proches de Dieu. Cependant, si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre, car Dieu vous a appelé à vivre en paix. Comment pourrais-tu être sûre, toi, femme chrétienne, que tu sauveras ton mari? Ou comment pourrais-tu être sûre, toi, mari chrétien, que tu sauveras ta femme? Ce cas accepté, il faut que chacun continue à vivre conformément aux dons que le Seigneur lui a accordés et conformément à ce qu'il était quand Dieu l'a appelé. Telle est la règle que j'établis dans toutes les églises. Si un homme était circoncis lorsque Dieu l'a appelé, il ne doit pas chercher à dissimuler sa circoncision. Si un autre était incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, il ne doit pas se faire circoncire. Être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Il faut que chacun demeure dans la condition où il était lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave quand Dieu t'a appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si une occasion se présente pour toi de devenir libre, profite-en. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un homme libéré qui dépend du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé par le Christ est son esclave. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclave des hommes. Oui, frère, il faut que chacun demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Psaume 31, versets 20 à 25. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles! Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Tu les abrites en ta présence, hors de portée des intrigues humaines. Tu les caches à l'abri, loin des mauvaises langues. Seigneur, merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse, à moi qui étais comme une ville assiégée. J'étais troublée au point de dire, me voilà chassée loin de ton regard. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais au secours. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Quant aux arrogants, il leur rend largement la monnaie de leur pièce. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Proverbe 21, verset 4. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants.
Et merci Sabelle pour ta lecture. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, comme nous étudions la vérité des Écritures chaque jour, nous t'invitons également à rendre vivante ta parole en nous, de manière à ce qu'elle affecte l'ensemble de ce que nous sommes. Parle à notre cœur, mon Dieu. Je te prie pour que ces graines de sagesse dans ta parole ne restent pas sur la terre arable de notre vie, mais plutôt qu'elles pénètrent profondément en nous et produisent une récolte fructueuse. Amen. Et une dernière chose avant de vous laisser continuer vos activités de la journée, et sachez que vraiment ce n'est pas notre but de ramasser des fonds, mais tous nos équipiers travaillent à titre bénévole et ils sont heureux de s'engager dans ce ministère. Mais je ne vous cache pas que nous avons quand même quelques frais, comme par exemple l'hébergement du site, la publicité et aussi le matériel. Et si ce ministère vous apporte du bien, et si vous voulez partager avec nous ces frais, eh bien nous vous en serions vraiment, vraiment reconnaissants. Alors vous trouverez des liens sur le site internet dailyaudiobible.fr. Merci de tout cœur par avance. Et sur ce, mes chers amis, je vous dis au revoir et à demain pour la suite de notre podcast.